La Mouette Crieuse sur Radio U 101.1, une émission proposée par le groupe local Greenpeace Brest.
Aujourd'hui, la mouette crieuse se fâche. La marée verte, c'est pas auto-nettoyant. Et même, c'est récurrent, si on ne veut pas l'avoir. Lavoir, machine à laver, mise au rebut et valorisation ne sont pas des solutions. Il faut, je vous le dis, fermer les robinets. Remonter à la source et fermer les robinets. Et pourquoi pas la ramener à ceux qui, volontairement, ne la voient pas.
Chaque année, le Centre de valorisation et d'études des algues, le CEVA, basé à Pleubian dans les Côtes d'Armor, effectue des survols du littoral breton. Objectif, inventorier les sites touchés par les échouages d'ulves et évaluer les surfaces couvertes par ces algues vertes. Dès 2010, un suivi des proliférations a lieu dans 8 baies et anses, Saint-Calleux-Guildeau, Saint-Brieuc, Saint-Michel-en-Grève, Lokirec, Lorne-Guillec, Guissenie, Douarnenez et Concarneau. Le gouvernement adopte un plan d'action en vue de... ouvrez les guillemets, améliorer la gestion des algues et en prévenir la prolifération en réduisant les flux de nitrates arrivant à l'exutoire des bassins versants. Fermez les guillemets. L'amélioration du ramassage et du traitement des algues échouées ne suffisent pas. Pour mieux comprendre, nous irons à Guissenie. Qui de mieux qu'un veilleur pour nous éclairer sur le bloom planctonique et les règlements pointant les marées vertes. Mais auparavant, nous allons saluer un autre veilleur, plus mystérieux et symbole de résistance écologique dans l'Amérique des années 70. Mr. Fox nous attend sur la rivière Fox, Chicago, United States of America.
Two and a half years, a man in Chicago has worked as a sort of one-man guerrilla force against pollution. He calls himself the Fox. He has done such things as walking into the front office of a steel company and dumping on the carpet dirty water he said the plant was pouring into the waterways.
1969, région de Chicago, USA. James F. Phillips navigue en canoë sur la rivière Fox. Désormais, appelons-le par son pseudonyme, Mr. Fox, un renard contre l'industrie chimique. Plus il remonte la rivière, plus des résidus de savon la polluent. Des poissons flottent, des oiseaux, des petits mammifères, des insectes se décomposent en surface. Il remonte jusqu'à l'exutoire de l'usine de production de savon. Amour diable! Mr. Fox ressent une immense frustration devant cet inventaire mortifère. Un environnement souillé, une faune sacrifiée au nom du profit et de la cupidité de grandes entreprises. Par obligation d'autodéfense et par saine nécessité de reprendre le pouvoir, Mr. Fox va répondre dans la clandestinité en signant ses actions Mr. Fox. Pour cette action initiatique, il cimente l'exutoire et oriente la presse alternative vers la contestation des pratiques polluantes. Mr. Fox est sans doute le premier à revendiquer l'action directe liée à la protection de l'environnement.
Sands and watch the ships that go sailing.
Merci Thomas Dutronc de nous mettre dans l'ambiance mer avec Beyond the Sea. Alors en Bretagne, c'est sûr, les marées vertes sont connues depuis plusieurs décennies sur les plages armoricaines. Depuis 1997, elles sont inventoriées dans les baies peu profondes où les plages découvrent largement à basse mer, puis dans les estuaires vaseux. Le phénomène progresse désormais sur des zones plus inattendues, telle la rade de Brest en Finistère ou la rivière d'Étel dans le Morbihan, des sites à fort hydrodynamisme. Aujourd'hui, nous sommes à Guisseny avec Jean-Yves Piriou. Bonjour Jean-Yves Piriou.
Bonjour.
Alors vous étiez chercheur à Ifremer et vous êtes aujourd'hui chargé de mission au sein d'Eau et Rivières de Bretagne. Alors plusieurs questions. Tout d'abord, pouvez-vous nous éclairer sur les facteurs qui sont propices au développement de ces marées vertes en Bretagne ? Ensuite, qu'en est-il de la prolifération des différents territoires littoraux ? Et enfin, peut-on craindre des échouages précoces cette année ? Jean-Yves.
Alors, à l'Ifremer, nous avons étudié entre 1985 et 1995 justement ce phénomène de marée verte sur le littoral breton. Et nous avons déterminé en fait trois facteurs indispensables pour qu'il y ait prolifération d'algues vertes sur le littoral. premier facteur, c'est un piégeage hydrodynamique, c'est-à-dire que malgré le balancement des marées, marées hautes, marées basses, les algues et tous les éléments chimiques qui sont dans l'eau restent sur place dans une même baie. Voilà. Donc c'est une condition physique, la première condition. La deuxième, il faut un estran ou une plage de sable ou de vase étendue à faible pente qui fait que la température de l'eau monte assez vite en période printanière et estivale. Et il y a aussi de la lumière qui peut alimenter la photosynthèse des algues facilement. Voilà, donc c'est la deuxième condition, c'est encore une condition physique. Et la troisième condition, c'est une condition chimique, c'est une arrivée de nitrates directement sur ces zones propices physiquement. Et arrivée de nitrates par des rivières, donc c'est la condition de nitrate a été étudiée aussi par l'IFREMER, et on a trouvé en laboratoire et sous le terrain que le phosphore, en fait indispensable aussi à la croissance des algues vertes, se trouve naturellement dans le sédiment. Et par exemple, à Saint-Michel-en-Grève, on a trouvé qu'il y avait, en cherchant dans le sédiment le phosphore, on a trouvé qu'il y avait pour 60 ans d'alimentation des algues vertes, si on coupait tous les arrivées de phosphore par les rivières et par les stations d'épuration. Donc, on ne peut pas jouer là-dessus. On peut jouer que sur le nitrate qui arrive par les rivières. Et ce nitrate, il alimente les algues vertes chaque année, au printemps et en été. Et il faut diminuer donc ces concentrations de nitrate qui arrivent par les rivières.
Très bien, ben merci beaucoup. Alors, je reviens sur la Ria d'Etel. Parce que la marée donc remonte sur 24 km et quand elle descend, elle génère de forts courants. À ces mouvements d'eau s'ajoutent des variations de profondeur. Le tout produit un ensemble d'habitats marins très variés qui habitent naturellement une grande biodiversité avec beaucoup d'animaux fixés, comme entre autres des éponges. Mais dès 2020, les algues vertes, donc en état de putréfaction, sont observées sur les estrans vaseux autour des îlots, avec par endroits des amas impressionnants d'algues qui sont en train de pourrir. Déjà à cette époque, des riverains rapportent on ressent parfois des malaises. Alors on pourrait penser que le caractère de la rivière d'Etel est unique, mais la situation de la rade de Brest inquiète également, avec les rejets de la ville de Brest et les apports des rivières Elorne et Aulne. La chasse d'eau du Goulet de Brest ne semble plus suffire. En introduction d'une soirée à la fac de droit, les associations AE2D, Agir pour un environnement et un développement durable, et Force 5 de Morlaix ont présenté le film « Particularité de la rade de Brest » de Christine Fallon. Alors oui, ça paraît inquiétant, Jean-Yves Piriou. En quoi le processus diffère-t-il à Brest et est-ce qu'il est irréversible?
Alors d'abord, le plan de lutte contre les algues vertes en Bretagne ne concerne que 8 baies en fait, et du 8 baies avec un support sableux. Or, il y a énormément de sites sur vase qui existent aussi en Bretagne, qui sont identifiés dans le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Mais malheureusement, il n'y a aucun plan pour remédier sur ces sites-là. Par exemple, en rade de Brest, l'estuaire de l'Elorne et l'estuaire de l'Aulne sont considérés des sites de prolifération d'algues vertes sur vasière. Donc, il est demandé, enfin, il sera demandé au prochain schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux de 2028 à 2033 de prendre des mesures aussi pour diminuer de au moins 10% jusqu'à 20% pour 2033 les concentrations de nitrate de l'Elorne et de l'Aulne. Donc, voilà actuellement le projet. Par contre, il existe aussi, et la Ria d'Etel est considérée aussi dans ce cadre-là. Donc il y aura un objectif aussi de diminution du nitrate. Par contre, il existe aussi maintenant, depuis quelques années, des proliférations sur les fonds marins, en rade de Bresse, en baie de Morlaix et peut-être ailleurs aussi, qui ne sont pas identifiés par les photos aériennes prises par le Centre d'études et de valorisation des algues. Et là, ce sont les plongeurs ou les ostréiculteurs qui en pâtissent et qui le voient. Et il faudra identifier toutes ces zones-là, parce que la rade de Bresse est grande, il n'y en a pas partout. Il y en a par exemple certainement en baie de Daoulas, qui est aussi une baie plus fermée que le reste de la rade de Brest. Il faudra identifier ces zones-là et prendre des mesures pour réduire le nitrate qui arrive dans ces zones-là.
Très bien, merci. On va écouter Émilie Loiseau, Eau sombre. On est bien dans le ton.
J'ai vu dans la rivière couler des galets plats, des pierres toutes rondes et même la terre parfois se noie. Je nage dans une eau sombre où il y a longtemps déjà ont coulé les décombres d'un vieux navire de bois.
Soir, l'amour nous
Ici, donc, et sur d'autres plages, on trouve un panneau. Méfiez-vous des écoulements sur les plages, ces rejets peuvent être contaminés. Donc ça, c'est pour les matières fécales sur les zones de baignade. Et où sont les panneaux ? Ici sont morts des sangliers, hein, toute une horde, où ici et là, deux hommes sont décédés, et des chiens aussi, hein, il me semble, sont tombés à cause de l'hydrogène sulfuré. L'État a bien du mal, semble-t-il, à mettre les algues putréfiées, pardonnez-moi l'expression, sous la moquette. En la matière, la concomitance avec des surfaces d'épandage à saturation, est-ce qu'elle est admise par la justice ? Et que dit la profession agricole concernée ?
Alors, vous parlez des épandages de lisier, de fumée, etc. Quand on regarde une carte en fait des excédents d'azote épandu sur les terres au niveau national, au niveau français, on voit que la Bretagne est en excédent, est en zone rouge, en excédent structurel, qu'on appelle ça, c'est-à-dire qu'on met trop d'azote, azote c'est un composé du nitrate, on met trop d'azote sur les terrains agricoles. Évidemment, quand il y en a trop, que fait cet azote qui est en trop par rapport à l'alimentation des plantes ? Ben, il est entraîné par l'eau. Et soit par lessivage, c'est-à-dire ça rentre verticalement dans les sols et après dans les nappes phréatiques, ou bien c'est entraîné par ruissellement directement dans les rivières et ça va à la mer. Donc les deux, en fait, parce que les nappes phréatiques qui sont contaminées par le nitrate aussi, arrivent tôt ou tard dans les rivières et après les rivières arrivent à la mer. Donc voilà, il y a les deux cycles. Le cycle par les nappes phréatiques est plus long. Mais il faut prendre en compte l'ensemble de la problématique.
Et que disent les autorités ? Comment évolue finalement la situation réglementaire par rapport à ces aspects ?
Alors, Eaux-et-Rivières de Bretagne demande depuis pas mal de temps déjà de prendre des mesures pour réduire en fait les normes d'épandage sur les terres. Voilà. Or, la profession agricole n'en veut pas. Donc, on est toujours avec des excédents et en fait, les services de l'État suivent plutôt la profession agricole que aux rivières, pour l'instant.
Alors, en arrivant là justement sur le site, on a vu un capteur d'hydrogène sulfuré. Vous pouvez nous en parler quelques minutes ?
Oui, alors ces capteurs ont été mis sur certains sites de Bretagne, en baie de Saint-Brieuc, il y en a quelques-uns, en baie de Douarnenez aussi, et ici au port du Curnic, donc en baie de Guissenie, il y en a un posé sur la dune, et donc ça en fait enregistre en continu en fait les teneurs en hydrogène sulfuré émises par les algues vertes quand elles pourrissent, se dégradent en haute plage. Voilà. Et il y a des normes en fait à respecter. Quand ça dépasse une certaine norme, il y a un déclenchement. Et dans ce cas-là, la plage doit être fermée par la mairie localement. Et il faut savoir qu'en 2024 et 2025, il y a deux plages qui ont dépassé les normes d'hydrogène sulfuré, c'est en baie de Saint-Brieuc et en baie de Guissenie. Voilà. Donc ici, on est très concerné, la baie de Guissenie, par ce phénomène-là, qui est très dangereux en fait, parce que il y a eu des morts, hein. Il y a eu des animaux morts, des humains aussi, hein, avec l'hydrogène sulfuré. Donc il ne faut pas prendre ce problème-là à la légère.
Très bien. Alors déjà, en 1972, il était question d'hydrogène sulfuré. On écoute Nino Ferrer, La maison près de la fontaine.
La maison près de la fontaine, couverte de vignes vierges et de toiles d'araignées, sentez la confiture et le désordre et l'obscurité. L'automne, l'enfance, autour, il y avait le silence.
les guêpes et les nids des oiseaux. On allait à la pêche aux écrevisses avec monsieur le curé. On se baignait tout nu, tout noir avec
Alors la source, c'est la pollution, et la pollution, c'est pas auto-nettoyant, et ce d'autant moins qu'aux pollutions d'origine biologique se rajoutent les pollutions d'origine chimique, notamment par pesticides, insecticides, fongicides, désinfectants, ou encore plastiques, microplastiques, nanoplastiques, etc. Alors pour en revenir aux algues vertes, lors de la soirée à la faculté de droit de Brest, Yves-Marie Lelay, président de l'association Sauvegarde du Trégor Gouello Pintièvre, a lancé un appel fort, un appel à tous les citoyens se sentant impactés par la pollution due aux algues, un appel à déposer une plainte auprès du procureur de la République. Du côté de Porspodère, pendant une manifestation contre l'extension de porcherie, on a vu un cochon énorme qui volait dans les airs. Donc celui-là, il a fait sensation lors de l'événement. Faut-il effectivement déplacer le curseur de nos manifestations citoyennes pour enfin couper les robinets ? Faut-il passer à des actions plus fortes pour imposer à nos politiques des politiques ayant pour valeur l'avenir ? Jean-Yves.
Alors, on voit bien que maintenant, la profession agricole, depuis les élections de l'année dernière, 2025, les représentants dans toutes les instances, j'ai l'impression, se radicalisent. C'est-à-dire qu'ils ne veulent plus entendre parler de réglementation, de mesures, même de discussion. Donc on commence à avoir des problèmes dans les instances, alors que jusqu'ici, on avait l'impression que ça avançait dans les discussions, dans les consensus. Mais là, ça se radicalise et moi, j'ai un peu peur pour l'avenir. Là. Donc je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner dans les années prochaines, mais il faudra que l'État prenne des mesures, sinon on n'arrivera pas.
Donc, bien pessimiste. Alors, on va quand même changer un petit peu d'ambiance et on va partir avec Dionysos pour Chanson d'été.
Blesse mon cœur.
Revenons à nos savons. Quand trop c'est trop, Mr. Fox prône une désobéissance civile nécessaire. Mr. Fox a réussi à déposer dans les bureaux d'une grande compagnie des boues trouvées dans la rivière. Il dit qu'elles ne peuvent pas faire de mal à la moquette. Il dit que rapporter ses déchets à son propriétaire fait beaucoup d'effets.
À Ploudaniel, Bruno a développé Sandrea Nature, une production de produits ménagers issus de cendres de bois. Fabriqués à partir d'ingrédients naturels, ces produits artisanaux sont très efficaces et semblent bien conçus pour celles et ceux qui cherchent à protéger leur santé et l'environnement. Alors, contrairement aux résidus de savon qui sont découverts par Mr. Fox, les produits Sandrea Nature offrent une alternative écologique aux produits industriels dont la nocivité se cache généralement dans les secrets de fabrication. Bruno, le retour d'expérience de Sandrea Nature nous est précieux. Nous évoquons là un changement de paradigme.
Oui, ce que j'ai fait, moi, j'ai simplement réhabilité la lessive de nos anciens qui utilisaient la cendre de bois pour confectionner des lessives. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, les lessives industrielles, il y a trois grosses multinationales qui se partagent quasiment toutes les lessives qu'on trouve dans les rayons. Donc il y a Procter & Gamble qui est une multinationale américaine, Henkel en Allemagne, et Unilever qui est une multinationale anglo-néerlandaise. Et quand on regarde les composants issus de pétrochimie qui sont présents dans ces lessives, on trouve plein de joyeux petites substances, acide benzyl sulfonique, très toxique pour les organismes aquatiques, entraînant des effets néfastes à long terme, du paracétamol toxique pour les organismes aquatiques, entraînant des effets néfastes à long terme, du sodium laurate sulfate irritant, toxique et écotoxique, du sodium sulfate capable de pénétrer dans les tissus, se fixe dans les zones du cœur, foie, poumons et cerveau, alkyl benzène sulfonate très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme, des alcools éthoxylés fabriqués à partir d'un gaz extrêmement cancérigène qui est l'oxyde d'éthylène, très toxique également pour les organismes aquatiques, et enfin on trouve des phosphonates. Alors les phosphates sont interdits depuis 2007 dans les lessives, mais les zinzins ont trouvé le moyen de mettre des phosphonates, parce que dans les textes, ce n'est pas marqué phosphonate. Et les phosphonates génèrent l'eutrophisation des eaux par l'apparition d'algues vertes, provoquant l'asphyxie de la faune et de la flore.
Ensuite, il y a eu le printemps silencieux. DDT, pesticides, aucun chant d'oiseaux, quid de la reproduction, de la chaîne alimentaire ? Mr. Fox a rappelé aux politiques que nous sommes tout en haut de la chaîne alimentaire. La pollution est proche de chez nous. On ne la voit pas. Elle causera d'immenses dégâts. Elle est en nous.
Eh bien, après cette démonstration effrayante, merci Bruno. On va demander quand même son avis, justement, à notre scientifique local. Qu'est-ce qu'on peut en penser de tout ça, alors, finalement ?
Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, le phosphore, on le trouve suffisamment dans le sable et dans le sédiment marin. Quand il y a des algues vertes qui poussent dessus, elles sont alimentées par le sédiment. Par contre, quand il y a des algues vertes, que ce soit des entéromorphes ou des ulves, sur des fonds marins, des fonds rocheux par exemple, ben, il n'y a pas de sédiments, donc il n'y a pas de phosphore par le sédiment. Donc là, dans ce cadre-là, comme peut-être en rade de Bresse, ça demande à être étudié, mais en rade de Bresse, il peut y avoir du phosphore venant par l'eau, c'est-à-dire par les rejets directement qui alimentent ces algues vertes sur les fonds.
Très bien, donc ça veut dire qu'il faut effectivement limiter voilà justement les rejets qui ne sont pas conformes, alors qu'effectivement, en utilisant tes produits, Bruno, on va en profiter pour faire un petit peu de pub. Comment on te trouve?
On trouve mes produits principalement dans les biocoop ou les magasins de producteurs, quelques grandes surfaces également dans le Finistère, principalement dans le Finistère, et un petit peu dans les Côtes d'Armor, et puis un petit peu dispatché sur Paris également, enfin voilà.
Donc on rappelle le nom de toute ta gamme, hein. Donc il s'agit des produits Sandrea Nature, donc je vous invite évidemment à aller regarder de ce côté-là si vous voulez faire un geste pour la planète. Cette balade, c'était Blundento et Poupagim, les plages du 22. Alors quand dans une interview largement diffusée, Loïc Chesnay-Girard, président de la région Bretagne, signale il y a eu un pic de la production animale dans les années 2000 et depuis en moyenne ça baisse, que doit-on comprendre? Cool ou moins cool?
Ben, ça va mieux apparemment.
Loïc Chesnay-Girard signale que la population de porcs a chuté de 1,5 million en 20 ans.
Ben oui, il n'y en a plus que 6 ou 7 millions. Deux cochons par habitant.
C'est cela, et c'est la moitié du cheptel français. Cette densité, nous l'avons vu, pose un réel problème de pollution, un réel problème de loi favorable aux pollueurs, un réel problème de protection et de sauvegarde de nos habitats marins et de nos estrants, un réel problème de santé publique et de responsabilité pénale. Est-ce qu'on peut, en France, exposer la population en toute impunité ? pour une éthique envers nos jeunes générations, des citoyens militants, des scientifiques, des professionnels de la mer alertent les pouvoirs publics. Ils ramènent sans cesse, marée verte après marée verte, les algues vertes sur la moquette politique et sur le tapis juridique. Merci aux associations AE2D, Force 5, Sauvegarde du Trégor et Eaux et Rivières de Bretagne. Et merci à Greenpeace pour son cochon géant.
Pour les sons d'ambiance, vous aurez peut-être reconnu le jingle des dossiers de l'écran. Tom Waits, The Ocean Doesn't Want Me. Et l'archive de Mr. Fox que vous pourrez trouver sur le podcast de France Culture.
Agnès et Claude vous ont proposé cette émission verte et vous souhaitent un bel été sur les belles plages du 29. La prochaine émission, eh bien, La Mouette Crieuse vous donne rendez-vous en septembre. Vous pouvez réécouter les émissions de La Mouette Crieuse en podcast sur Radio U 101.1. On se quitte sur Aube Marine d'Anne Passeo. À bientôt.